cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire.
The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us.
Alright, so bienvenue à Entretien avec un guerrier. Ce soir, on reçoit Chiane Kevin Leduc. Bonsoir, Chiane.
Salut.
Ça va bien?
Ça va bien. Merci, vous autres.
Merci, merci. On est super contents de vous recevoir, puis on avait hâte de vous parler. Dans le fond, tu sais, ça va partir dans toutes les directions. C'est vraiment comme une discussion autour d'un verre de vin entre amis, puis tu sais, on se met pas de barrière. Fait que c'est ça. Mais on aimerait ça savoir pour commencer, vous venez de où, puis comment vous avez commencé les arts martiaux? Ça a parti où dans votre vie, les arts martiaux?
Fait que là, tu m'as dit qu'on avait juste 45 minutes?
Non, on peut
pas. Ah, c'est ça.
Il n'y a pas de limite de temps.
Parce que je suis pas jeune, moi, là.
Non, c'est ça, il n'y a pas de problème.
Non. C'est cool que vous faites, puis merci de m'inviter à votre émission. C'est vraiment
merci.
Cool.
Merci beaucoup. Merci.
Donc, pour partir, mais j'ai commencé à peu près le karaté à l'âge de 9 ans.
9 ans, OK.
Oui. Mon père, en premier, il m'avait inscrit au hockey.
OK.
Puis, j'étais après quelques années, j'étais pas mal compétitif au hockey. Puis, il avait décidé de m'inscrire au karaté pour faire un petit peu, pour complémenter mon expérience au hockey.
Parce ça, d'abord, t'as-tu du Kyokushin?
Exact, oui. J'ai commencé le Kyokushin. Parce qu'il trouvait qu'au hockey, j'étais pas assez agressif. Donc, mon père, il pensait qu'au karaté, j'allais développer mon agressivité puis apprendre à me battre, là, tu sais. Comme vous savez, ça a fait effet contraire. Le karaté, ça apprend plus à contrôler l'agressivité. Donc, c'est ça. Fait qu'à partir de là, mais au début, j'ai pas trippé sur le karaté. Parce que, comme je disais, c'était plus axé sur le hockey. Mais j'ai tranquillement développé l'amour pour le Kyokushin. C'était mon premier gros amour. Là.
Puis vous n'avez fait combien de temps de Kyokushin avant de passer à d'autres?
Bien, pas mal longtemps parce que c'était, comme je disais, je jouais au hockey. Puis j'ai commencé les arts martiaux. Puis les arts martiaux, c'était comme deuxième sport. Fait que c'était on and off pas mal. Mm-hmm. J'ai passé ma ceinture noire en Kyokushin. J'avais à peu près 21 ans, là.
OK.
Donc, ça a été long. Là.
12 ans pareil.
Oui, oui, oui.
Wow. Cool. Pendant ce temps-là, vous avez fait du hockey jusqu'à 21 ans?
Oui, jusqu'à 20 ans, je me suis rendu au hockey jusqu'à junior majeur.
OK. Wow. Cool.
Je ne savais même pas.
Oui. Ouais.
Quelle position vous jouez?
J'étais défenseur.
Mais vous avez joué dans le junior majeur ou vous auriez pu vous faire
recruter? Oui, j'ai fait le camp d'entraînement des titans de Laval dans le temps, puis ça n'a pas fonctionné.
OK, mais quand même.
Je me suis rendu jusqu'à là. J'ai joué Batam 2A, Midget 3, puis junior majeur. J'étais rendu là, puis c'était pas mal la fin de ma carrière. Là.
Puis moi, Chien, je me demande, parce que tu sais, le Kyokushin, c'est un style assez rough, là, assez
physique.
Ouais. C'est très physique, ouais. Ouais, c'est très contact, plus que nous. Est-ce que tu penses que si tu avais été dans un style plus avec les bungai, kata, tout ça, armes, tu aurais plus embarqué jeune dans le karaté ou vraiment à cet âge-là, tu sais?
Ben c'est dur à dire, là. Je sais pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, on sait comment un petit peu plus motiver les jeunes. Dans ce temps, dans les années 80, c'était ça le karaté. C'était
personne n'était le même. Ouais, tout le monde était comme ça.
T'avais un modèle d'une ceinture noire, puis il fallait que tu deviennes comme ça. C'était comme ça. T'sais. Aujourd'hui, on a des moyens où on peut garder le motiver le monde. Je sais pas.
Puis c'est le Kyokushin, là, maintenant, vous enseignez Kempo, vous êtes capable de faire les distinctions entre les six. C'est quoi, mettons, que vous avez gardé d'apprentissage de ce que vous avez acquis, que eux ont peut-être, puis qui est quand même utile maintenant dans votre parcours? Puis que... C'est quoi leur force?
Je te dirais que la plus grosse force du Kyokushin, c'est de savoir comment encaisser.
Okay.
Si tu n'es pas capable d'encaisser, tu n'aimeras pas le Kyokushin. C'est vraiment du corps à corps. Le monde, ça se tape dessus. Là, mais moi, je trouve que c'est primordial pour un artiste martial de savoir comment donner un coup, mais encore plus important, comment recevoir un coup.
Mm-hmm. Exact.
Parce que tu as beau être le meilleur dans les techniques d'autodéfense, si tu n'as jamais mangé une claque d'en face, mais tu risques de fuger. Là,
mm-hmm.
Fait que, ça, c'est ce que le Kyokushin m'a apporté le plus.
Okay.
Puis, pour revenir un petit peu dans ma jeunesse, quand mon père a découvert que le karaté, mais ça ne me rendrait pas plus agressif, c'est là qu'il m'a inscrit dans le kickboxing.
OK.
Parce que là, lui, il voulait que j'apprenne à me battre. Ouais. C'est là, dans le kickboxing.
Adolescent, que... ça?
Là, je parle de 14, 21
ans. 14-15 ans. OK, à 14-15 ans. Okay. 14-15 ans, kickbox, hop, plus.
C'est ça. Exact. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à vraiment triper parce qu'à 14-15 ans, je me suis rendu compte, hey, je suis pas mauvais, là. Tu sais, je me débrouille pas pire, puis je me battais contre, dans ce temps-là, des adultes, là. Fait qu'à 14-15 ans, quand tu es capable de faire face à un adulte,
ouais.
Ben, tu sais, à un moment donné, tu tripes, là. Tu sais,
c'est bon pour le self-esteem, là.
Ouais, exact, exact. Ouais. Fait que c'est là que tu es vraiment tombé en amour avec les arts martiaux, là.
OK. Puis la rencontre avec Son Fuki, ça s'est fait quand dans votre parcours? Parce que là, à 21 ans, on était déjà rendu... on était encore dans le Kyokushin à 21 ans.
Ouais, exact. Fait qu'à 21 ans, quand j'ai eu ma ceinture noire en Kyokushin, j'avais le goût d'aller explorer autre chose.
OK.
J'étais allé dans le ninjutsu.
OK.
Parce que, pour revenir encore un petit peu dans ma jeunesse, je vais vous conter une petite anecdote.
Oh, ouais.
Les années 80, il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'un genre de ninja boom, là, un ninja craze où tout le monde a trippé ninja.
Oui.
Puis, t'as quel âge, toi, Manu?
37.
37, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai 43. Fait que des années 80, là, ça allait exploser ninja. Là.
Ninja Turtles. Puis,
ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tout le monde voulait devenir ninja. Ouais. Fait que, ouais. Moi, je m'en souviens, je ne sais pas si vous avez connu le fournisseur Genesport ou Jeansport à Montréal. C'est ça. Mm-hmm. Fait que j'avais peut-être 12-13 ans à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. Avant ça, j'avais 12-13 ans. Écoute, j'allais visiter le Genesport. C'est un fournisseur. Là. J'allais dans le magasin et je flânais là.
Juste pour regarder
le matériel, regarder
les armes.
Bagues, les armes, tu sais. Ouais. Le monsieur, le propriétaire là-bas, il avait été super gentil. Il m'avait amené en arrière, puis il m'avait tout montré comment il faisait les punching bags, comment il faisait les kimonos, puis les ceintures, tu sais.
C'est ça,
tu sais, je tripais. Puis il m'avait donné un masque de ninja. Je m'en souviens, que j'avais pas d'argent, là, tu sais, j'étais juste là pour flâner. Mais il m'avait donné un masque de ninja, puis c'est là que j'avais trippé, moi. J'avais commencé à tripper ninja, tu sais.
Ouais.
Mais à 21 ans, je dis, hey, je veux devenir un ninja, tu sais.
Ouais.
Fait que j'avais été étudié le ninjutsu.
OK.
Fait que j'ai fait ça pendant une couple d'années. J'ai fait une couple d'années de ninjutsu. Wow. Fait que, après ça, mais là, je tombe à peu près à 22 ans, c'est l'âge que j'ai eu Tommy. J'ai eu mon premier enfant.
OK.
À 22 ans. Fait que là, j'ai comme arrêté un petit peu les arts martiaux parce que alors, on travaille. Puis,
obligation parentale.
C'est ça, exactement, exactement. Et puis, quand Tommy a eu l'âge de 4 ans, j'ai dit, OK, il est temps que je l'inscris dans les arts martiaux pour qu'il apprenne les valeurs que moi, j'ai connues aussi. Puis, ben, à part le ninjutsu et le Kyokushin, c'était mon premier choix. Fait que j'ai inscrit Tommy dans une école de Kyokushin à l'âge de 4 ans.
OK.
Puis, il a fait une... Ça, c'est une grosse histoire, là. Il a fait une compétition de Kyokushin.
OK.
Puis, il a fini premier.
OK.
J'ai dit, ah, ouais, Colin, ça, c'était nouveau pour moi, une école de la compétition. Je connaissais pas ça, là, en karaté. Fait que, c'était cool. J'ai développé l'amour pour la compétition, pour Tommy. Puis, là, je m'en vais sur Internet, je commence à checker, puis j'ai dit, OK, il y a une compétition à Québec. On s'inscrit là, on va aller voir que ça a l'air. Mais je ne savais pas que c'était l'une des plus grosses compétitions. C'était le Québec Open, là.
Oh.
Moi, je m'en allais au Québec Open, je ne connaissais pas ça.
Ouais.
Fait qu'on arrive là, puis regarde, c'était un choc culturel un petit peu pour moi, puis mon gars. Tu sais, on voyait du monde flipper un peu partout, puis lancer les armes, là, tu sais. C'était nouveau pour nous autres. Mais... fait que là, j'ai vu un petit garçon qui avait un crest d'un serpent sur le kimono. Puis, en fait, c'était Alex Cousineau, dans le temps qu'il était tout petit.
Coucou.
Puis, fait qu'on est allé sur Internet, on a fait nos recherches, puis j'ai trouvé l'école Son Fuki à Saint-Eustache. Moi, dans ce temps-là, j'étais à Montréal.
OK.
Fait qu'on restait à Montréal. J'étais élevé à Montréal toute ma vie, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
OK.
Fait qu'on a trouvé l'école de Son Fuki. Fait que je m'en vais visiter l'école avec mon gars. Puis c'est là que j'ai rencontré, à cette époque-là, c'était Chian Pierre Sonny. On a discuté un petit peu, puis ça n'a pas été trop long, j'ai inscrit Tom. Puis on faisait Montréal-Saint-Eustache 3 fois semaine.
Wow! Il
fallait
qu'il ait été impressionnant quand même pour voyager ça, tu sais, c'est...
Ben, c'est ce que j'ai vu au Québec Open avec Alex Cousineau.
Alex Cousineau était impressionnant, oui.
Ben, c'est ça, moi j'ai dit, gars, moi je veux que mon gars fasse ça. Ça partit de même, là, tu sais. Puis là-bas, à Saint-Eustache, il y avait l'école de kendo. dans le temps. Okay.
Ouais.
Fait que moi, je m'étais inscrit au kendo.
OK.
Fait que, tu sais, moi, je suis plus trad, là, tu sais. Mm-hmm. Je me suis concentré dans le kendo, puis Tommy, je l'ai envoyé dans la compétition full pin, là.
Mm-hmm.
Fait que c'est de même que ça a commencé.
Puis là, éventuellement, à force de le suivre, c'est quand la décision qu'elle s'est prise, le déclic, « Hey, je vais faire ça de ma vie, moi, enseigner le karaté? »
Je sais pas si vous avez fait du kendo, mais il faut être très, très, très patient.
Okay.
À un moment donné, j'ai manqué de patience.
Okay.
ça bougeait pas assez. Fait que je dis, oh non, moi, je fais du switch au karaté. Puis, Kiyoshi m'a fait, Chian, Pierre Saunier m'a fait une petite évaluation. Puis, je suis parti. Il m'avait mis une ceinture mauve.
OK.
Okay. Je suis parti depuis la ceinture mauve. Puis...
jusqu'à noir, là, à partir de...
J'ai plus jamais arrêté.
Mm. Wow.
On parle de quelle année?
Grosso modo, c'est ça l'histoire. Et boy, on parle de 2003, 2003-2004.
Wow.
Ouais.
Wow.
Ça fait 17 ans que je connais Kiyoshi.
Ah ouais. Ouais. Hein.
Wow.
C'est fou, ça. Puis là, dans le fond, vous avez ouvert votre école pas à ce moment-là, parce que là, en 2003-2004, on était ceinture mauve, ça veut dire qu'il y a eu quelques années, fait que c'est plus 2007-2008, quoi?
Exact, j'ai ouvert en 2007 ma première école.
OK.
Ouais.
Puis ça grossit vite, comment ça s'est passé?
Bien, les deux premières années, comme n'importe quelle entreprise,
ouais.
Il faut que tu mettes du temps, c'est dur, ouais. Fait que tu travailles fort, puis là, ça grossit. Je te dirais que après la deuxième année, c'est là qu'on a déménagé. On est allé dans un plus gros local.
OK.
Puis à partir de la troisième année, c'est là que ça a vraiment explosé.
OK. Fait que depuis la deuxième année, vous êtes au local où est-ce que vous êtes aujourd'hui, là, le même local?
Oui, exact. Okay. Exact.
Cool. Ça fait, bonne équipe de compé à l'Assomption, là.
Oui. Mais tu sais, c'est des hauts et des bas tout le temps. C'est du travail, puis de l'investissement, puis il faut jamais que tu lâches.
Oh,
ouais. Puis une équipe, à un moment donné, on réalise au bout de 6-7 ans que ça cycle. Tu sais, à un moment donné, ton équipe, elle pogne toute ceinture noire, première dan, deuxième dan, à un moment donné, ils pognent toute l'adolescence, t'en perds beaucoup, ça revient, à un moment donné, il faut que tu travailles, t'es pas jeune,
exact.
T'es pas vieux. Tu sais, c'est difficile. Même un bon professeur, à un moment donné, à 15-16 ans, ses élèves, tu sais.
Il en perd.
Ben oui, c'est toujours à renouveler.
Exact.
T'as beau avoir une belle grande équipe, si Monet, tu t'es assis avec ça, mais ça t'offre pas. Il faut tout le temps que tu renouvelles, puis c'est tout le temps un travail continu.
Puis il y a une question qu'on avait abordée, je me souviens plus, c'était avec Marc-André, avec Renchi Marc-André, parce que lui aussi, il avait fait d'autres styles. Puis là, je savais pas que vous aviez fait du Kyokushin puis du Ninjutsu avant. C'est quoi votre perspective sur l'espèce d'esprit de clocher qu'il peut avoir entre les styles dans les arts martiaux? Tu sais, comme pour quelqu'un qui en a fait trois, il me semble que c'est parce que vous avez l'esprit ouvert, mais clairement, c'est pas le cas de tout le monde. Là, tu sais.
Bien, c'est sûr que du bon, il y a des points forts et des points faibles dans tous les styles.
Ouais, ouais.
Dans vraiment tous les styles. Fait que tu prends ce qui est bon pour toi. Moi, j'ai toujours dit que dans ma vie d'arts martiaux, j'ai une valise. Puis je prends ce qui est bon pour moi, puis ce qui n'est pas bon, je ne le mets pas dans ma valise.
Ah ouais.
J'ai toujours vu ça de même. Fait que le Kyokushin m'a apporté beaucoup, le Kempo m'a apporté beaucoup, le Ninjutsu, écoute, moins, mais quand même, j'ai retenu des choses. Le kickboxing m'a apporté des affaires. J'ai même fait 3 ans d'armée.
Okay.
Même dans l'armée, j'ai appris des choses qui m'étaient utiles encore aujourd'hui. Là, fait que, c'est un parcours qui est... Tu sais, on dit qu'on est... on est élève, mais on est élève tout le temps.
Mm-hmm.
Même si on est professeur, on est tout le temps élève. Puis tu vas tout le temps apprendre.
Et même encore aujourd'hui, à l'épisode précédent, on parlait avec votre fils Tommy, puis il nous disait que vous avez commencé à faire le jiu-jitsu.
Exact, oui.
C'est comment là, de continuer la pratique en parallèle de deux arts martiaux en même temps?
Le jiu-jitsu, c'est spécial parce que ça te met hors de ta zone de confort totalement, à tous les cours.
Mm-hmm.
Tu sais, t'arrives, je suis rendu dans un niveau au karaté où que, même si le cours est difficile, je suis quand même à l'aise parce que je suis dans mon élément.
Mm-hmm.
Tu sais, mais t'arrives dans le cours de jiu-jitsu puis tu te rends compte que, ouf, là, t'es pas confortable, t'es pas bien, puis c'est pas le fun tout le temps. Là, t'sais. Fait que c'est ça qui est le fun dans l'apprentissage. Il y a du monde qui te force à te sortir de ton élément de confort, puis là, il faut que tu te débrouilles. Mm-hmm. Puis, je trouve ça bien parce que c'est ça, la vie, là. Mm-hmm. C'est exactement ça, la vie. La vie te place dans des situations inconfortables, puis débrouille-toi, là. Mm-hmm. Tu sais, un petit peu, qu'est-ce qu'on vit présentement, là? Tu sais, il y a du monde qui le vivent des deux façons. Il y a du monde qui le prennent totalement négatif. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est un choix, ça. Tu peux le prendre aussi, puis regarder les points positifs là-dedans, là.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait.
Puis, il y en a quand même.
Vous avez évoqué les 3 ans dans l'armée. C'est arrivé à quel moment, ça, dans le parcours?
Quand Tommy est né.
OK.
Tout de suite après ça, je m'ai enrôlé dans la réserve.
OK.
C'était un trip aussi que je voulais vivre. Fait que c'est pas l'armée à temps plein, là. La réserve, c'est à temps partiel. Fait que je travaillais, j'allais à l'école aussi, j'allais à l'université.
OK.
Puis j'étais dans l'armée à temps partiel aussi en même temps. Ouais.
Fait que vous n'avez jamais servi. Vous avez eu la formation, le training, tout ça, mais vous n'êtes jamais allé à l'étranger pour servir?
Non, j'ai jamais servi. J'ai fait mon 3 ans de service dans l'infanterie.
Okay.
Moi, c'était ça que je voulais faire. Je voulais l'essayer. Puis ça a été une belle expérience de vie.
Oui. Puis à part la discipline, la discipline, c'est évident que ça sert dans les arts martiaux, mais y a-t-il d'autres choses que vous êtes allé chercher comme bagage qui vous sert comme professeur aujourd'hui?
Ben oui, c'est sûr que la confiance en soi, de comment donner, présenter quelque chose ou présenter un cours. Puis j'étais rendu au grade de caporal, fait que là, t'as comme en charge d'une section. Fait que tu sais, ça commence déjà à t'occuper d'un groupe. Parce que cette expérience-là, elle vient de là aussi. Là, fait que
Le fait de prendre charge de d'autres mondes, dans le fond. Hein.
Oui, exact. D'être responsable de d'autres mondes.
OK. Cool. Tu m'as dit que tu avais des questions préparées. Je t'écoute.
Ben, moi, je me demandais 3 influences que vous avez dans les arts martiaux chiens parce que vous êtes quelqu'un de sage. Fait que je me demande qui quelqu'un de sage trouve sage. Donc, c'est ça, 3 influences dans les arts martiaux.
3 personnes qui m'ont influencé.
Ouais.
Influencé peut-être dans votre chemin, puis qui encore aujourd'hui vous influence.
OK, mais gamin, je vais y aller avec 3 personnes, personnages que j'ai pas connus.
OK.
Donc, on va y aller avec Miyamoto Musashi.
OK.
Fait que je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui qui a écrit le traité des 5 roues, Book of Five Rings. Vous n'avez pas lu The Book of Five Rings, il faut lire ça, OK?
C'est apprendre. C'est parfait.
C'est un des plus grands samouraïs du Japon de tous les temps.
Okay. Okay.
Fait que juste pour vous donner une petite histoire vite, il a eu 60 duels dans sa vie, du 1 contre 1, une bataille jusqu'à la mort, puis il n'a jamais perdu un.
OK. Okay.
Wow. Comment ces duels, excuse?
Katana,
ouais, mais...
Écoute, lui, c'était un combat de katana, mais des fois, il se battait juste avec un bokin.
OK.
Fait que, ouais, c'est spécial. Mais allez voir ça.
OK, good.
Fait que Miyamoto Musashi, lui, il m'a beaucoup influencé avec son The Book of Five Rings. C'est sûr que Bruce Lee, là, il y en est pour quelque chose. Là.
Mm-hmm. Mais là, on en a parlé l'autre jour. Là. Mm-hmm. Bruce Lee, c'était...
Ah ouais. J'ai pas trippé sur tous ces films, mais juste tout ce qui englobe,
ce qu'il représentait dans le fond. Hein.
Exactement. Mm-hmm. Tabarouette, il s'entraînait tout le temps, puis tu vois des photos de lui. Puis,
ben, aussi, quelque chose que je trouve beau de Bruce Lee, c'est que ça a été un des premiers à tous les styles traditionnels depuis des centaines d'années. T'sais, lui, c'est quand même un des styles les plus récents dans les années 50-60. Là, fait que c'est là que tu peux voir que tu peux amener quelque chose de récent pareil, puis tu sais, être aussi bon que ce qui est traditionnel plus qu'avant, puis même mieux parce que tu sais, tu l'améliores, puis tu l'amènes à l'époque d'aujourd'hui, tu sais. Fait que tu es premier à faire ça, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Lui, c'était un des premiers à dire regarde, moi, je vais prendre. Justement, je parlais de ma valise tantôt, là, c'était justement ça aussi son concept. Lui, il s'en foutait des styles, là. Lui, c'était comme qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis je le garde, le reste, je m'en fous, là, tu sais. Fait que ça, il a influencé beaucoup le monde d'arts martiaux.
C'est cool d'avoir une suggestion lecture pour l'autre avant. Puis sinon, ça serait qui le 3e?
Le troisième qui m'a influencé, mettons, quand j'étais jeune, c'est Jean-Claude Van Damme.
Ouais, ouais. Hein?
Ouais, fait que lui, avec le film Bloodsport, c'est lui qui m'a vraiment dit, il a dit, go, faut que tu fasses ça de ta vie, là. Ouais.
Bloodsport, ouais, c'est lequel, ça? C'est pas lui qui est en smoking blanc, là.
Qui fait la Jay, t'as pas vu Bloodsport? Come on,
je suis pas sûr, c'est lequel.
Moi, je l'ai pas vu.
C'est un de ses huit premiers films,
j'ai jamais vu.
Non, mais
ça.
Je sais que ses huit premiers films, il a été payé comme 1,3 million pour les huit films, là. Puis qu'ils se ressemblent tous, là. Mais je suis pas sûr.
Ouais, c'est le film qui l'a rendu populaire, là.
OK. Non, d'abord, je l'ai vu. Sport.
Fait que, ça, ah, c'est ouais. Les trois personnages qui m'ont influencé. Tu sais, mais toutes les histoires d'anciens maîtres, moi, je trippe là-dessus. Mm-hmm. Là. Tu sais, je trippe sur... mettons, quand j'apprends un nouveau kata, genre, OK, c'est quoi le nom du kata? D'où
la
ça
racine.
Vient? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Puis qui l'a inventé? Fait que là, j'ai le nom de ce maître-là, puis là, je veux tout savoir sur sa vie possible, tu sais.
Wow.
Fait que tous ces personnages-là m'influencent,
là. Mm-hmm. Ouais. Je trouve ça super intéressant comme approche d'aller étudier le côté théorique de quelque chose qu'on apprend en pratique. Ouais, c'est vraiment hot.
Ben, c'est ça, je pense, la maîtrise totale de quelque chose, tu sais.
Mm-hmm. Mais tu sais, ça dépend. C'est chacun pour... Tu sais, c'est chacun, c'est qu'est-ce qui t'intéresse, là, tu sais. Mm-hmm. Moi, c'est ça qui m'intéresse, là, tu sais. Je veux savoir, mais pourquoi est-ce qu'il bloque de telle façon? Ça vient de où, là, tu sais? De quel village? Parce que même, on sait tous que le karaté vient d'Okinawa, mais, tu sais, mettons, même de la partie de Naha, Okinawa, ou la partie de ton mari ou de souris, il ne bloquait pas de la même façon.
Mm-hmm.
Fait que c'est intéressant de savoir, OK, le kata est inventé par tel maître dans tel village, il bloque de cette façon-là à cause de... C'était ça, leur influence.
Ouais. C'est comme des recettes traditionnelles. D'un village à l'autre, tu n'avais pas les mêmes recettes, la même affaire, mais là,
exact.
Ils ont développé les arts martiaux selon leur famille puis leur... ouais.
Exact.
Ah, c'est cool.
Ben, ici aussi, on le voit que on a beau être la même franchise, enseigner les mêmes katas, d'une école à l'autre, il y a des gens qui bloquent pas de la même manière dans les mêmes blocs. Là. Ben, écoute, ils font des affaires pas de la même chose pareil.
Ben, écoute, tu regardes juste dans Sunfuki, d'école en école, on a toutes la même base. On a beau faire des vidéos pour qu'on enseigne tout de la même façon, on exprime tout. Tu sais, Kiyoshi me disait, il peut reconnaître c'est les élèves en compétition. Quand il regarde un élève en compétition, il sait c'est qui son prof,
juste par la
façon qu'il bouge.
Ouais.
Fait qu'on exprime tous nos mouvements à notre façon, là, pareil, on ne veut pas.
Puis on n'a pas tous les mêmes intérêts aussi. Fait que, comme dépendant de ce que nous, on aime, on va pousser plus nos élèves vers ça, peut-être même consciemment ou pas. Donc, nos élèves vont être bons dans ça, dans quoi nous, on est bons aussi. C'est un peu normal.
Oui, exact.
Fait que c'est pour ça qu'on peut reconnaître, ah oui, lui, il vient sûrement de telle place à cause de ça, tu sais.
Ouais.
Ouais. Puis même, même dans le Kenpo, j'en parlais avec un autre épisode avec Jérémy. Moi, j'ai vu dans une compétition beaucoup de. J'étais à une compétition à Victo, puis c'était tous des Jean-Guy Angel, puis c'est du Kenpo. Ouais. Ils font des katas que j'avais jamais vu ever. Fait comme. Mais eux, ils font toutes les mêmes katas, toute cette gang-là. Là, moi, j'arrivais avec quelque chose de complètement différent. Puis il y a un gars de Studio Uni dans ma catégorie qui fait quelque chose qui ressemblait plus à nous. Mais eux étaient vraiment à part, puis pourtant, c'est du Kenpo, là. T'sais.
Oui, mais c'est
ça. Jean-Gangel, c'est une autre branche de Kenpo.
Ouais, non, mais je fais juste dire, tu sais, comme...
Mais tu sais, encore là, tout le Kenpo vient... Toutes les écoles de Kenpo, présentement, peuvent toutes retracer leurs racines à James Mito aussi.
Mm-hmm.
Ça, c'est clair. Mm-hmm. Mais, comme tu dis, Jay, avec le temps, ça a fait des branches, puis là, il y a des différents styles de Kenpo, là, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que c'est pour ça que, tu sais, le Studio Uni, il se rapproche plus à nous autres.
Ouais.
Parce qu'on le sait que Clermont-Poulain a eu des liens avec Kiyoshi pendant des années.
Mm-hmm. Puis ça vient de Nick Serio en haut.
Exact.
Moi, je trouve ça un peu... je trouve ça le fun pour plein de raisons. Mais je trouve ça triste pour une grande raison. Comme ça bloque... là, un petit peu moins les Olympiques. Mais tu sais, nous, quand même, qu'est-ce qu'on fait dans nos compétitions? C'est quand même pas encore aux Olympiques. T'sais, c'est quand même vraiment quelque chose de très différent de qu'est-ce que Sumfuki on fait. Mais c'est un peu à cause de ça que le Kenpo sera jamais aux Olympiques, là, parce qu'il y a trop de branches.
Ben, c'est déjà bien que le karaté soit aux Olympiques, parce que moi, je pensais jamais que le karaté allait être aux Olympiques. Il y a tellement d'organisations. sais, c'est contrairement à boxe ou au judo, où il y a juste deux organisations mondiales. Le karaté, il y en a des centaines. Puis le kempo, mais on n'en parlera pas. Il y en a des milliers, là, tu sais.
Mais de toute façon, dans beaucoup de sports, ils remettent en question l'espèce de piédestal sur lequel on met les Jeux olympiques, parce que ça coûte tellement cher, les Jeux olympiques, puis tu sais, il y a beaucoup de corruption, beaucoup d'histoires qui disent, finalement, on devrait investir plus sur nos championnats du monde puis sur nos affaires à nous, parce que les Jeux olympiques, tu sais, ça amène... Pour ce que ça coûte puis pour ce que ça amène en retombée, c'est remis en question beaucoup. J'ai lu ça beaucoup dernièrement dans d'autres sports. Puis là, le karaté, ils disent qu'en plus, il va être en démonstration seulement. Fait que c'est même pas sûr qu'il va revenir après ça à la prochaine édition.
Bien, c'est déjà décidé qu'il sera pas en 2024.
Bien, c'est ça, tu sais.
C'est ça. Fait que, tu sais, on se le cachera pas que le karaté est aux Olympiques parce que les Olympiques sont au Japon.
Ah oui, parce
que... Est à Tokyo, exact. Ah oui.
Exact, tu sais. Non, c'est bien pour le karaté. Parce... Oui, c'est bon pour faire plaisir, mais tu sais, c'est bien pour le karaté. Ça fait de la pub pour le karaté, mais malheureusement... Comme disait tantôt, il y a trop d'organisations, tu sais.
C'est ça qui bloque. Mais ça serait le fun qu'on soit capable de s'unifier, puis qu'on justement, mais tu sais, c'est qu'il y a trop d'organisations, puis on n'est pas capable de s'entendre, mais ça serait vraiment le fun pour aller aux Olympiques.
Check, même le taekwondo est aux Jeux olympiques, non? Puis, puis taekwondo, c'est la... Il y a WTF, puis il y a ITF. Moi, j'ai fait du taekwondo ITF quand j'étais jeune. Puis, si je ne me trompe pas, ITF n'est pas aux Olympiques, c'est WTF qui est aux Olympiques. Tu sais, comme...
Mais c'est ça, tu as deux organisations.
Ouais. C'est ça, okay. Fait que c'est de la politique. Là. Fait que c'est qui a les bons amis pour.
Ouais, mais, mais ITF et WTF, c'est pas comme WKF. Puis WKC, là, tu sais, moi, je vais pas gagner les Olympiques avec Ibino, là, tu sais.
Non, mais c'est ça,
tu sais, t'as doublé. Tu gagnes l'ITF, puis gagner WTF, là, tu sais. C'est pareil, nous, c'est vraiment différent l'un de l'autre, là, tu sais.
Sinon, Sean, vous avez parlé d'influence de Jean-Claude Van Damme, puis Bruce Lee. Qu'est-ce qui vous intéresse en dehors des arts martiaux, cinéma, film, whatever?
Skateboard, snowboard,
on connaît déjà un hobby, là, le paintball, à cause de Tommy. Mais...
Ah, OK, il a parlé de ça. Ouais, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Ouais, c'est ça, on a une équipe de paintball. Fait que c'est comme un sport que je fais avec mes deux gars. Fait qu'on joue au paintball, on a une équipe de paintball compétitif. Mais je suis un gars qui aime essayer des affaires. Fait que je fais de la plongée sous-marine, je saute en parachute.
Combien de sauts actifs?
80. 80 sauts. 80
sauts.
Oui. 80 sauts, puis à peu près une centaine de plongées. Mais tu sais, c'est... J'aime vivre des choses. Fait que quand que je vois quelque chose qui serait le fun à essayer, mais je fonce ça, tu sais, je l'essaye.
80 sauts, là, bravo, parce que je sais pas si je vais en faire un dans ma vie. C'est d'abord une activité que je suis pas sûr de tout faire. Wow.
Non, en tout cas, tu dois pas te sentir... Tu sais, des fois, il y a du monde qui sent coller les pieds, tu sais, ou encrasser. Mais tu vis, là. C'est fou, là. Tu sais, ça...
Ah oui,
c'est de la vie, là. C'est bien.
Ben, j'essaie.
Comment gérer la dynamique? Parce que on se connaît, là. Fait que je sais que vos deux garçons sont dans le karaté. Fait que comment ça s'est géré sur le développement des écoles, avoir des enfants qui vont à l'école... Tu sais, puis que les deux garçons restent impliqués aussi puis motivés dans le karaté au fil des années, là, tu sais. Tu prends pas une équipe de ça, là.
Tommy, c'est spécial. La relation que j'ai avec Tommy, c'est très spécial. Mettons, si je parle de la relation que j'ai présentement, j'ai comme relation de père-fils, j'ai une relation de professeur-élève, puis on a une relation associée. Fait que, tu sais, c'est comme, des fois, ça clash. C'est sûr que ça clash, mais tu sais, lui, il est jeune, puis il est pas mal plus... Il a un bon caractère, Tommy. Quand tu le connais, il est explosif des fois, tu sais. Mais je montre mon point de vue, puis des fois, il comprend, puis... Tu sais, fait que ça, c'est pas pire. Pour Casey, mon plus jeune, lui, c'est plus dur parce qu'il se compare beaucoup à son grand frère, qui a déjà beaucoup accompli dans le domaine des arts martiaux. Fait que, pour lui, c'est un petit peu plus difficile de garder la motivation. Mais écoute, il est quand même deuxième dan à Sanfuki. Fait que c'est pas rien, là, tu sais. Il est quand même pas pire.
Ouais, puis c'est un fighter.
Ouais, lui, il aime le combat. Lui, il aime le combat, il veut juste faire du combat.
Lui, c'est comme le troisième, donc il y a deux personnes. Il y a comme deux paires de souliers à chausser, là. C'est un méga challenge.
Ouais, 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 exact. Exact. Ouais. La barre est haute pour lui, puis c'est ça, un petit peu, qui depuis le début, qu'il a comme. T'sais, gars, c'est je serais jamais bon dans le karaté. Ouais. Mais il fait son petit chemin à sa façon. Puis, ouais, c'est un bébé de dojo, là. J'ai ouvert le dojo. Ben oui, j'ai ouvert le dojo, puis il était dans son petit banc de bébé, là.
Ouais, je connais ça.
C'est sa maison, là, tu sais. Ouais. Il vient plus souvent au dojo qu'à la maison.
Ouais, c'est ça. Puis est-ce que c'est devenu rapidement votre occupation à temps plein ou vous avez gardé un job à côté longtemps?
Moi, j'ai risqué gros en partant.
OK. Donc,
j'ai ouvert le dojo, puis trois mois plus tard, j'ai lâché ma job pour faire le
dojo
à temps plein. Yeah. Okay. Ouais. J'étais allé, gars, ça passe.
Ouais. Mais de toute façon, pour que ça devienne autre chose qu'un sideline, tu n'as comme pas le choix de t'y consacrer à temps plein. Sinon, ça va être un sideline.
À un moment donné, il faut que tu fasses le saut.
Ouais, c'est ça.
Ça prend du courage, mais il faut que tu fasses le saut et tu dises, regarde, j'y vais là tout pour le tout.
Mm-hmm.
C'est parti en affaires. Ce n'est pas juste un dojo. Là. N'importe quel business, c'est ça.
Oh, oui, définitivement. Les premières années, il faut que tu sois tout le temps en train de penser à ça, à comment tu vas le développer. Puis...
C'est ça. Plus que tu mets du temps dedans, mais plus que tu risques d'avoir du succès.
Oui. Puis est-ce que les gars étaient impliqués assez vite à aider sur les cours, j'imagine, parce qu'ils étaient déjà avancés, rendu là?
Tu parles à mes enfants?
Oui, oui.
Ben, Casey, lui, était encore bébé.
Oui, oui.
Tommy a commencé à donner, mettons, mes réchauffements de cours d'adulte. Il avait à peine... 11-12 ans, là.
Wow! Si je ne me trompe
pas, là. Fait que vite, il est impliqué, là.
Ah ouais, c'est cool, ça.
Ouais.
Mais vous avez une belle équipe à l'Assomption. Du monde, tu sais, du monde que ça fait très longtemps. Là. Christian, là, comment il s'appelle? Christian pas Posé.
Posé, ouais, exact.
Ouais, Christian Posé, ça fait longtemps, là, tu sais. Vous avez une équipe là, qui dure à l'Assomption, là, tu sais.
J'ai encore des élèves qui datent du premier jour d'ouverture du dojo, là.
Qui sont pas encore là.
Ouais, 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 ouais.
Félicitations.
Merci. Ouais. Le dojo de l'Assomption, là, je te dirais que c'est ça vraiment...
C'est familial au bout.
Exactement. C'est un dojo que j'aimerais très, très, très familial, là, tu sais. Mm-hmm. Le monde le dit. Quand ils rentrent chez nous, ils se disent « Ah, wow, ça sent bon. » Tu sais, on est bien. C'est leur première réaction, tu sais. Souvent, tu vas avoir un membre de la famille qui s'inscrit, puis après ça, mais j'ai tout le reste de la famille qui s'inscrit. Mm-hmm. C'est pas trop long, là. Ouais.
Mais ça paraît aussi quand on, tu sais, au gala annuel, Sanfuki, il y a des écoles qui crient plus fort que d'autres. L'Assomption.
Non, ben je l'ai payé pour ça, là.
il paye les billets.
Puis au fil des années, vu que ça fait longtemps que vous faites des arts martiaux, vous avez vu l'évolution aussi de la. La société, c'est un sujet qui est revenu souvent avec nos invités, mais comme c'est quoi votre perception de la façon dont on gère l'intimidation dans les écoles aujourd'hui? Versus, mettons, je vais me permettre de dire dans notre temps, là, parce qu'on est à peu près la même génération, là, ça a quand même évolué beaucoup. Mais en tant que professeur ou en tant que martial artist qui a vu ça évoluer aussi. Comment vous voyez ça aujourd'hui?
Là, tu tombes dans un sujet touché un petit peu. Ouais.
On aime ça, les sujets touchés.
Moi, j'ai toujours dit à mon gars, si tu te fais intimider, défends-toi.
Mm-hmm.
C'était ça la règle. Mm-hmm. Tu fais pas du karaté pour rien. Mm-hmm. J'ai toujours dit ça. Puis ça a été le cas à un moment donné. Tommy, il se faisait intimider au secondaire. Puis à un moment donné, ben, regarde, je sais pas si je devrais dire ça, mais j'ai dit... Puis c'était tout le temps une gang. Puis j'ai dit, pogne le plus fort de la gang, puis m'emmener.
Défends-toi. Ouais.
C'est ça, fais-y face. Ouais. Puis quand il a fait ça, ben, il a été correct pendant tout le reste de son secondaire.
C'est fini parce que les gars, ils vont le respecter après, tu sais.
C'est ça. Fait que je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ça, puis il y a toutes sortes de règlements, puis blablabla. Mais moi, quand j'ai un parent qui vient me voir dojo, puis il me dit, hey, mon enfant, il se fait intimider à l'école, qu'est-ce que je. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Mm-hmm.
Regarde, Tu veux-tu la vérité ou tu veux la version selon la loi? Là, mm-hmm. Fait que là, ils me disent, non, dis-moi vraiment ce que toi tu penses. Mm-hmm. Fait que là, je leur dis, mais ils font du karaté pour se défendre dans la vie. Puis l'intimidation, mm-hmm. ben, si tu fais face à ça, il faut que tu te défendes.
Ouais.
Ouais, mais tu sais, souvent, c'est des gangs qui intimident. Mais l'important, c'est pas de gagner ou de perdre. C'est de mettre ton pied à terre pour te faire comprendre que si tu reviens, je vais encore me défendre. Fait que, ben, ils vont juste changer. T'sais, c'est pas important de gagner ou de perdre le combat. T'sais, on veut pas que nécessairement il soit violent et qu'il conseille à tout le monde, le jeune. Mm-hmm. Surtout qu'il s'affirme pour plus faire. Pis souvent, t'as même pas besoin de te battre une fois que tu t'es affirmé.
Non, mais c'est ça.
Ils vont s'en aller. T'sais?
C'est ça.
Fait que c'est pas nécessairement de s'encourager à se battre qu'on veut, c'est s'encourager à s'affirmer
puis à dire, puis avoir confiance en eux. Ouais.
C'est ça.
Exactement. Exact.
Ouais. Mais c'est sûr que quand tu sais que tu es capable de faire un side leg kick au genou, ben, t'as peut-être plus confiance de te mettre devant un gars. Mm-hmm. C'est sûr que ça vient ensemble, c'est mathématique.
Ouais, mais là, c'est ça le problème. Les personnes qui se font intimider, souvent, c'est le monde qui ont moins confiance puis qui sont peut-être pas capables ou n'ont pas toutes les habilités pour donner un side leg kick. Comme tu dis, Jay, c'est plus le fait. Ouais, c'est ça. C'est plus le fait de dire, regarde, je me laisse pas faire.
Ouais.
Fait que peu importe ce qui arrive,
Ben, si la personne qui se fait attaquer, juste le fait qu'elle ait confiance, puis qu'elle parle fort, puis qu'elle regarde dans les yeux, c'est quelque chose qu'on répète souvent sur les cours. Quand t'as quelqu'un qui fait de l'intimidation, juste qui commence verbalement. Si il voit que tu y tiens tête, souvent, ça peut être suffisant pour qu'il s'en aide.
Oui, c'est ça.
Autre chose,
ouais, moi, les examens d'enfants, c'est toujours pour ça. Je fais tout le temps un rappel à la fin de l'examen, pourquoi ils se présentent au début. Là. C'est, tu sais, être capable de justement parler fort, là, mm-hmm. puis de mettre son pied à terre, là, c'est super important.
Exact. Là, exact. Juste le fait de crier, là, ouais, c'est ça. C'est juste le fait de crier, ça fait déjà, wow, mm-hmm. qu'est-ce qui se passe là? Là
même quand tu es un adulte, là, tu sais, dans un parc, un jeune. Là.
En tout cas, ouais. Oui, oui, oui.
Définitivement.
C'est ça.
C'est-tu déjà arrivé? C'est arrivé, vous avez eu des élèves qui ont eu à se défendre, qui ont eu à mettre en application des fois?
Oui, ça arrive assez souvent, je te dirais. Là, ouais. Souvent même, il y a des élèves qui viennent me voir et qui me content leur histoire et qui me disent « Hey, regarde, j'ai fait ça à l'école, mm-hmm. telle situation est arrivée puis je m'ai défendu de telle façon. » Puis ils sont fiers d'eux autres. Là, ils sont, mm-hmm. sont contents parce qu'ils ne sont pas laissés faire.
En même temps, tu sais, on peut servir de modèle positif parce que c'est ça, je racontais que j'ai des élèves, tu sais, des fois qu'ils se sont battus à l'école ou, tu sais, ils ont poussé quelqu'un, peu importe, ils ont fait un peu d'intimidation. Puis juste le fait que le parent vienne m'en parler, l'élève, il a comme, tu sais, le fait qu'il sait que son professeur est déçu, ça joue tellement une influence comme, après ça, je dis, garde là, je ne sais même pas, c'est quelque chose que j'ai fait par moi-même. Moi, j'ai dit, garde, moi, je vais garder ta ceinture au dojo puis, pour la semaine. Puis si papa, maman, la semaine prochaine, ils me disent que tu as bien fait ça puis tu as changé ton comportement, je t'ardonne. Puis, puis ça fonctionne vraiment super bien.
Ça fait mal.
l'élève, là, comme il y en a pour vrai, il y en a qui sont comme, OK. Puis comme tu il a pas l'air de réagir, mais il change pareil. Il y en a pour vrai, ils pleuraient, mais comme.
Ah oh, oui.
Mais j'étais content parce que le parent, tu sais, il est d'accord, il est derrière ça, c'est eux qui viennent de demander. Et après ça, ils viennent, ils me disent, hey, là, ça a super bien été, aucun avertissement, tout ça, changement de comportement radical. Fait que, tu sais, si on peut les aider à maturer là-dedans aussi, moi, je me sens vraiment utile quand je vis des situations comme ça, là, en tant que professeur.
Mais je pense y a quand même une nuance entre se défendre et se battre. Là.
Ah oui!
Le jeune, il prend son karaté, il arrive, puis là, j'enlève sa ceinture, mais tu sais, moi, un jeune qui se défend, j'enlève.
Jamais! Non, jamais! Mais moi, c'est quand que le parent.
Ok, c'est ça. Non, mais c'est
mon
ça.
Mon enfant qui a fait du bullying.
Ok, oui, mais non, hey!
Sinon, jamais!
Tu l'envoies pratiquer avec les plus grands.
Ben non, sinon, moi, un enfant qui me dirait cette semaine, il y a un grand qui est venu puis il voulait me frapper, puis j'ai fait un blocage, puis j'ai bloqué son coup de poing, j'ai fait un high five, là, good job! T'as fait ce qu'il fallait. Ben oui.
Okay, non, c'est ça. Non, mais c'est pas sûr, j'étais comme même.
Non, je ferais jamais ça à un enfant qui se défend.
C'est ça, c'est contre-productif.
Non.
Mais sinon, enlever la ceinture, là, ça fait des miracles, là, des fois. Là.
Oh, oui.
Même pour la majorité des cas. C'est sûr qu'il y en a des fois, mm-hmm. qui sortent de l'ordinaire, là, mais sinon, la majorité des cas, quand tu enlèves la ceinture, là, ça touche pas au cœur.
Surtout s'il commence à être un petit peu avancé, l'élève, il a travaillé fort, il est fier de ses accomplissements, tout, puis il comprend la symbolique. T'sais, un enfant qui vient passer sa ceinture jaune, puis il enlève sa ceinture jaune, il a 6 ans ou whatever, 7 ans, je sais pas, il comprendra peut-être pas forcément, mais les élèves un peu plus vieux, là, genre fin primaire, début secondaire, là, eux autres, ça veut dire de quoi, là.
Ben oui. Puis on est pas mal plus important qu'on pense aussi, parce que des fois, j'ai des parents qui viennent me voir et ils me disent, tu sais, ils demandent à leur enfant de ramasser la chambre, puis là, l'enfant fait une crise ou peu importe, puis ils disent, OK, je vais en parler avec Chienne, voir qu'est-ce qu'il en pense. La chambre, elle se fait ramasser, là, tu sais.
Écoute, on va se dire les vraies choses. Moi, je suis professeur de karaté, puis je me sers de cette menace-là avec mon fils. Quand il est un peu arrogant, je dis, hey, tu parlerais jamais comme ça à Chienne. Là, il est comme non. Ben, c'est ça. Ça marche pas avec moi non plus. Fait que non, ça, c'est. Ouais. L'influence du professeur est très importante pour les élèves.
Ouais. Ben, même en ce moment, tu sais, les jeunes, tu sais, avec le COVID, là, tu sais, puis tout, là, tu sais, ils sentent distancés, puis tout, mais le karaté, ça leur manque beaucoup parce que justement, ils sont avec plein d'amis, mais moi. Je sais pas si vous, là, mais moi, des fois, on essaie de faire des petites vidéos avec la gang, là, tu sais, puis les enfants, ils adorent ça, puis ils trippent.
C'est super important, je pense, là, à ce moment-là, de garder contact avec vos élèves, là, c'est notre job, là, tu sais, de les sécuriser, puis de leur montrer les images du dojo. Il faut qu'ils s'attachent à quelque chose, puis s'ils s'attachent pas à notre dojo, ils vont s'attacher à quelque chose d'autre. Moi, je les garde près de moi tout le temps, tous les jours, je leur lance un petit massage, un petit vidéo, un petit quelque chose. Pour que.
Ils voient que ça va finir, là.
Ouais, exact.
Ça repart avec nous. Ouais, c'est ça.
Parce qu'on aura beau dire, là, mais tu sais, des vidéos d'entraînement, c'est une patch, là, mais ça remplacera jamais l'être humain.
Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, le monde, ils avaient leur routine de venir nous voir, puis il faut qu'ils continuent à nous voir, là. T'sais. Fait que c'est important de continuer à travailler dans ce sens-là.
Moi, le karaté dans ma vie, puis tu sais, je parle même pas de mes clients, là, je parle de moi. Dans ma vie, le karaté, je vois ça un peu comme ma religion, à la limite, tu sais. Puis pour moi, c'est une. Tu sais, le dimanche, j'arrive au dojo, je vais avec mes parents, le lendemain, une compé. Tu sais, il y a comme un vibe ou quand il y a des examens aussi, le genre de petit stress, tu sais. Puis là, en ce moment, il y a comme rien. Fait que c'est comme bizarre, tu sais, fait que c'est important de justement garder ça avec la gang, puis on a des dojos, fait que de garder avec nous, là. Puis ça leur fait du bien, parce que les jeunes, en ce moment, même les enfants, ils ont un peu peur, là, les jeunes, là, en bas de 10 ans, là, ils sont comme, on va perdre l'école,
ils ressentent, c'est bizarre. Ils ressentent le stress des parents, là, c'est sûr. Les parents, ils essaient de camoufler... le mieux qu'il peut, mais il veut pas. Le stress, ça paraît, l'enfant le ressent.
Puis comment ça se passe dans votre famille? Parce que, tu sais, c'est un peu comme chez nous, là. C'est votre business familial, le karaté. Fait que là, en ce moment, comment vous vivez ça, là, d'être confiné, puis d'avoir rien à faire, mais tu sais, je veux
dire. Ben, moi, je le prends bien, là. Honnêtement, là, c'est. C'est rare que j'ai comme 3 semaines à rien faire. Ça fait comme 10 ans que j'ai une pièce que je voulais peinturer, que j'ai pas eu le temps de peinturer, mais il y a 7 semaines, je l'ai peinturée. Puis ça me permet de relaxer, puis de passer du temps en famille. Fait que tu regardes, comme je disais tantôt, tu as un choix d'aller voir les aspects négatifs ou les aspects positifs. Je fais mon entraînement le matin personnel, je fais du yoga aussi. Là, j'ai mon gars qui commence à vouloir apprendre hey, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, James Mitto aussi. Là. C'est cool là, que je sors des vieux livres que j'avais. C'est des choses que normalement, j'avais pas le temps de faire.
Ouais, c'est clair. Hein? La vie va tellement vite que lire des livres, c'est demandant. Là. Je veux pas. C'est s'y consacrer.
Ouais.
All right, cool. Jay, t'avais-tu d'autres questions sur ta liste?
Certain, tu me prends pour qui? Je suis un amateur. Chienne, comme si on n'avait pas fait assez. Chienne, vous êtes rendu à un point que peu de nous arrivent, je pense, parce que la plupart, leur chemin se finissent avant ça. Mais vous avez engendré des élèves qui ont ouvert des écoles de vous. Combien? Puis comment qu'on se sent de ça? Parce que ça, c'est un bel accomplissement.
Oui, exactement. Je suis très, très fier. Très fier de ça. De un, Son Fouki, mais je l'ai tempé sur le cœur. Fait que si je suis capable de faire grossir puis faire avancer Son Fouki, mais tant mieux. Puis de l'autre côté, mais quand mes élèves sont capables aussi d'accomplir quelque chose, un peu leur rêve, mais.
Juste pour le bénéfice des auditeurs, on peut-tu les nommer, vos élèves qui ont des dojos maintenant?
C'est oui. Fait que, mettons, je pars avec ça. Je pars à la première école. J'ai ouvert mon école à l'Assomption. Après ça, ma deuxième école, c'était. J'ai ouvert avec Steve Inns.
OK.
À Repentigny.
À Repentigny.
Steve, c'est un de vos élèves. Oui, là, je sais qu'ils viennent de vendre
Sébastien,
l'élève à Chienne. Oui, exact.
Oui, exact.
Après ça, on a ouvert à Joliette avec Ranchy Tom.
Oui.
Après ça, j'ai une de mes élèves qui a ouvert à Lavalterie.
Annie,
Annie qui a ouvert à Lavalterie. Oui. Puis, tout récemment, j'ai eu Senpai Martin qui a ouvert à Saint-Julien.
Wow. C'est comment ça, comme professeur, son enseignement? C'est comme une autre génération, là, dans le fond.
Ça spread, oui.
Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est cool parce que je fais mes cours de brune noire une fois par semaine, puis j'ai encore des professeurs qui viennent me voir pour faire leurs cours de brune noire, puis ils prennent encore des cours privés avec moi. Fait que ça, c'est très, très cool, puis je suis très fier de ça.
Mm-hmm. Puis...
Mais il faut, parce qu'on reconnaît un bon... C'est tough pour sortir des comptements. Enfin, comment c'est... Mais, tu sais, on reconnaît un bon professeur, comme tu dis tout le temps, Kyoshi, au nombre de ceintures noires qu'il a, tu sais.
Ouais, puis
je pense que quand tu as des élèves qui sont rendus à s'ouvrir des franchises, tellement que tu leur donnes le goût d'apprendre. Tu sais, un peu comme Shane Sony aussi, c'est un autre Shane qui en aime beaucoup, dont Manu, hein. C'est vrai. Tu sais, je pense que c'est là que tu vois aussi un grand professeur que c'est fou, là, comment ça transpire la passion, là.
Mais c'est exactement, tu viens de le dire, c'est la passion. Là. Quand tu es passionné par quelque chose, ça se transmet et c'est contagieux.
Mm-hmm.
Donc, ouais, c'est ça.
Ouais, j'ai plus de questions, Manu. Toi, dans
la non, mais écoute, on a fait le tour pas mal, mais c'était vraiment super intéressant. Puis j'espère qu'on pourra, dans le futur, peut-être on pourra se reprendre dans d'autres contextes avec d'autres invités, mais en live aussi, là, c'était le fun de le faire à distance. Mais merci beaucoup pour votre temps ce soir.
Ça m'a fait très plaisir.
Merci à vous. Super intéressant. Merci beaucoup.